Isabelle Moreau, Europe 1, CNews, la matinale week-end.
Bonjour, soyez les bienvenus dans la matinale week-end CNews Europe 1. Nous sommes le samedi 16 octobre, un samedi marqué par des hommages officiels à Samuel Paty, le jour anniversaire de son assassinat. Nous y reviendrons dans nos journaux et nos débats. Un week-end très politique aussi. Nous verrons si un rapprochement est en train de s'opérer entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et puis dans les rendez-vous à ne pas manquer à 7h20, Michel Chevallet nous dira pourquoi l'éthanol bien moins cher séduit de plus en plus de conducteurs. Et à 7h50, Céline Géraud nous parlera de vos envies d'ailleurs. Vous êtes très nombreux à vouloir changer de vie et de ville en ce moment. Bon réveil à vous. Merci d'écouter Europe 1, il est 7h. On est ensemble pour 2 heures d'infos en direct. Pour notre débat à 7h10, on accueille Guillaume Bigot et Arnaud Benedetti. Bienvenue à
bonjour.
Tous les deux.
Merci, bonjour.
Et bien sûr, on est toujours en compagnie d'Elisa Lukaski pour le journal. Bonjour à vous. Elisa, voici les titres de ce samedi matin. Nouvelle journée d'hommage à Samuel Paty aujourd'hui, un an jour pour jour après son assassinat. Un square à son nom va être inauguré juste en face de la Sorbonne. Emmanuel Macron recevra ses parents à l'Élysée dans la journée. Et nous irons à Éragny, la commune où il résidait dans le Val-d'Oise. Ils sont 252 000 à nous protéger au quotidien dans des conditions souvent pénibles et malgré les attaques dont ils font parfois l'objet. Emmanuel Macron s'exprimera devant les pompiers rassemblés en Congrès national à Marseille ce matin. En voilà un qui risque de ne plus mettre son réveil le matin pour aller travailler, le gagnant de l'euro-million. Il ou elle a empoché la plus grosse cagnotte jamais enregistrée en Europe. Tenez-vous bien, 220 millions d'euros. Je vous laisse penser à ce que vous pourriez bien faire avec ça. C'était il y a donc tout juste un an, l'assassinat de Samuel Paty par un terroriste islamiste.
Oui, c'était exactement le 16 octobre 2020, alors que ce professeur d'histoire géo rentrait du collège. Il a été assassiné parce qu'il avait montré en classe des caricatures du prophète Mahomet. Après les hommages qui ont eu lieu dans les différents établissements scolaires, hier, c'est au tour de sa ville d'origine, Éragny, de lui rendre hommage, Kinson et Pierre-François Altermat.
Un quartier paisible, marqué à jamais par la décapitation de Samuel Paty, à quelques pas de chez lui, à Éragny-sur-Oise. Une feuille collée sur une palissade où est écrit « Je suis prof » lui rend hommage. Mathieu était l'un de ses voisins.
Je repasse plus ici de la même façon, j'y pense tous les jours en fait. Donc en plus je suis enseignant, moi je suis prof des écoles. Certains cours, on fait peut-être un peu plus attention à ce qu'on pourrait dire, on essaye de prendre peut-être plus de pincettes parce qu'effectivement on pourrait être aussi nous ciblés de la même manière que lui.
Christelle cherche toujours l'équilibre. Cette riveraine veut à la fois honorer la mémoire de Samuel Paty et tourner la page.
Moi, en fait, tout de suite après le drame, quand je passais devant, j'avais une grosse boule à la gorge.
Et un an après, quand vous passez devant,
c'est plus pareil. Mais j'y pense encore. Ça m'émeut parce qu'il allait en direction de l'école, le tueur.
Pour lui rendre hommage, la mairie a fait appel à un graffeur de la commune pour réaliser une fresque géante et colorée sur la façade de ce gymnase. Des figures symboliques, comme Marianne ou Jules Ferry, sont dessinées, mais pas celles de Samuel Paty. Un choix du maire d'Éragny, Thibault Humbert.
L'enfant de Samuel Paty vit dans notre commune et qu'on ne voulait pas qu'il ait le visage de son père qui lui revienne sans arrêt.
Laïcité, tolérance, liberté sont inscrits sur la fresque. Autant de mots qui décrivent les valeurs de Samuel Paty.
Ces menaces de mort dans l'actualité à l'encontre d'Éric Zemmour et Marine Le Pen.
Oui, tout est parti de la vidéo d'un internaute sur le réseau social TikTok. L'homme au visage flouté y menace de décapitation Marine Le Pen et Éric Zemmour. La candidate Rassemblement National se dit habituée à ce type de menace. Le polémiste et écrivain qui était hier à Nîmes n'a pas exclu de porter plainte. On écoute les deux intéressés.
Vous savez, des menaces de mort, j'en ai régulièrement. C'est pas parce que je ne m'en plains pas qu'elles n'existent pas. Mais elles ne m'empêcheront à l'évidence pas du tout de continuer à faire ce que je fais, à savoir défendre le peuple français.
Écoutez, je verrai, je n'ai pas encore réfléchi. J'ai vu ça il y a peu. Vous savez, il faut rester rationnel et raisonnable. Je pense que la police fera bien son travail et qu'il sera vite arrêté.
Et puis à noter que Jean-Pierre Elkabbach, à 8h40, recevra l'historien Benjamin Stora.
On connaît le profil du suspect placé en garde à vue après la découverte d'une femme décapitée dans l'Hérault. Il s'agirait d'un homme de 51 ans, ancien boxeur et candidat Front National au municipal dans le Nord, selon le parquet de Béziers. Il a été placé en garde à vue jeudi soir. Aux enquêteurs de la police judiciaire, le suspect a déclaré n'avoir aucun souvenir du crime qui lui est reproché. Il a invoqué des troubles de mémoire dus à un traumatisme crânien et a affirmé être sous traitement médicamenteux.
On continue, Elisa ?
Avec la santé pour l'instant.
Pas de troisième dose, c'est ça pour ceux qui ont été vaccinés par Moderna.
Exactement. La Haute Autorité de Santé, en tout cas, elle le déconseille. Dans un communiqué publié hier, l'instance recommande d'utiliser exclusivement le vaccin Pfizer-BioNTech pour l'administration d'une troisième dose et d'attendre un avis de l'Agence européenne du médicament pour une injection de rappel avec Moderna. Une position de prudence. La campagne de rappel concerne les plus de 65 ans, les immunodéprimés et les personnes à risque.
De quoi vous faire un petit peu rêver ce matin, c'est la plus grosse cagnotte jamais enregistrée en Europe, 220 millions d'euros et le ticket a été validé en France.
Oui, alors qui est l'heureux élu? Est-il autour de cette table? Je vous regarde.
Apparemment non, mais je pense que ni Arnaud Benedetti ni Guillaume Bigot ne se seraient levés peut-être.
Peut-être, c'est possible, on ne sait pas encore qui a gagné.
Quoique.
Une chose est sûre, pour brouiller les pistes peut-être, 220 millions d'euros, ça donne une certaine latitude pour envisager des projets. Par exemple, dîner tous les soirs pendant plus de 1000 ans dans le restaurant triplement étoilé de Guy Savoie, ça peut être sympa. Ou tout simplement, on place son argent et on attend que les intérêts tombent. Les intérêts, ils s'élèveraient à 550 000 euros par mois avec une telle somme déposée à la banque.
La grande célébration du cinéma de patrimoine, ça se passe au Festival Lumière. Hier, la réalisatrice Jane Campion a été récompensée.
Oui, c'est un prix pour l'ensemble de sa carrière. En 1993, Jane Campion, elle avait remporté la Palme d'Or puis l'Oscar du meilleur scénario pour son film La Leçon de Piano. Ce Festival Lumière, c'est aussi l'occasion pour tous les amoureux du cinéma de revoir ou de découvrir certains films, comme nous l'explique Olivier Benkemoun.
Le roi du cirque, dernier film de Max Linder, n'a pas souvent les honneurs du public. À Lyon, les cinéphiles ont pu redécouvrir ce chef-d'œuvre du burlesque de 1925 en version restaurée, accompagné comme à l'époque, au piano. Il n'y a qu'au Festival Lumière qu'arrive ce genre de miracle. Créé en 2009 par Thierry Frémaux, Lumière est un festival qui remplit les salles d'amoureux du cinéma. On y voit des chefs-d'œuvre du patrimoine, mais on y célèbre aussi des monuments de la pop culture. Cette semaine, Alain Chabat est venu fêter les 20 ans du géant Shrek, dont il a été la voix française.
Vous allez bien les enfants? Oui. Vous en avez marre que je sois là? Vous avez envie de voir le film?
Oui.
Des anniversaires, des avant-premières aussi. C'est à Lyon qu'Edouard Baird a montré pour la première fois son tout nouveau film, Adieu Paris. Lumière est aussi un festival d'hommage. Le plus touchant a été rendu au réalisateur Bertrand Tavernier, disparu en mars dernier par ceux et celles qui ont travaillé avec lui comme Gérard Jugnot.
Pour moi, c'est grâce à lui que la fête a commencé. Merci.
Bertrand Tavernier a présidé pendant près de 40 ans l'Institut Lumière, qui veille sur le patrimoine des frères Lumière, inventeurs français du cinéma.
Merci Elisa Lukaski, on vous retrouve évidemment pour un nouveau point complet à 7h30. Un coup d'œil sur le temps de votre samedi avec vous, Claire Delorme. Bonjour Claire, vous avez encore, je crois, des bonnes nouvelles.
Exactement, une très belle journée encore nous attend sur la quasi-totalité du pays, mais il va falloir encore être un tout petit peu patient en matinée après la dissipation des brouillards qui seront surtout placés dans les plaines du sud-ouest et au nord de la Garonne. Sinon, donc l'après-midi, elle sera vraiment très ensoleillée avec un tout petit peu plus de nuages pour les régions nord de la Seine et en direction de la Bretagne et une petite averse éventuellement en direction de la Corse pour les températures l'après-midi. Alors c'est pareil, elles seront de saison, même douces encore en Méditerranée jusqu'à 22 degrés. Il fera 15 degrés vers les frontières du Benelux, 18 degrés du côté de Brest, 21 degrés à Bordeaux et 17 degrés pour Paris.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
7h08 dans la matinale week-end, place au débat avec Guillaume Bigot, politologue, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Je voudrais qu'on revienne ensemble sur ces différents hommages à Samuel Paty, ce professeur sauvagement assassiné il y a un an jour pour jour pour avoir montré des caricatures de Mahomet lors d'un cours. Les écoles, on l'a beaucoup suivi hier, étaient invitées à honorer sa mémoire. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour anniversaire. Les hommages continuent, des hommages plus officiels, notamment dans sa commune d'Erra. Il y aura aussi une rencontre entre le président de la République et les parents de Samuel Paty. Est-ce que les hommages à Samuel Paty sont à la hauteur du choc que son assassinat a provoqué dans la société française? Guillaume Bigot.
pense que le minimum minimorum, ce serait qu'au moins un lycée ou un collège par département soit nommé d'après le nom de cette victime, qui n'est pas une victime de plus du djihadisme en France. C'est un symbole très puissant parce que, et c'est pas seulement parce qu'il enseignait la laïcité, parce qu'il est enseignant, il incarne aussi une grande bonté, une grande gentillesse, parce que finalement, de quoi est-il mort ? De plein de choses. Mais il est notamment mort du fait qu'il a essayé d'avoir une attitude empreinte de respect et d'empathie à l'égard de ses élèves. Finalement, c'est ça, d'une certaine façon, qui l'a tué. Et ça me fait vraiment penser, vous savez, à ce poème qu'on apprenait tous, et je pense que les enfants encore apprennent dans les écoles de Paul Éluard sur la liberté, sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre, sur les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom sur les marches de la mort, je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Liberté et pas lâcheté. Sur nos frontons, c'est pas marqué lâcheté, égalité, fraternité. C'est marqué liberté. Et la liberté exige du courage. Et maintenant, je pense que pour que l'hommage soit sincère, que ce ne soit pas des larmes de crocodile, il faut arrêter de tomber dans ce panneau du pas d'amalgame. Les Français ne sont ni bêtes ni méchants. Ils font bien sûr la différence entre les bons pères de famille et les gens qui sont des croyants musulmans et des gens qui sont islamistes qui veulent convertir par la force. Parce que le véritable symbole, et j'en arrête là, c'est que celui qui dit la vérité, celui qui ose parler de laïcité, on va lui couper la tête.
Arnaud Benedetti.
Oui, bien évidemment, il faut lui rendre hommage. C'est le.
Il faudrait
le moins,
nommer
le moins...
aussi des établissements au nom de Samuel Paty.
Je ne sais pas, enfin, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que, si vous voulez, le problème, c'est que l'école, c'est la première ligne. C'est vraiment la première ligne parce que c'est le lieu de la transmission. C'est le lieu de la transmission des valeurs qui font que l'on peut vivre ensemble dans une république. Donc,
et c'est là où on doit parler de laïcité.
Qui est c'est là où on doit parler de laïcité, évidemment. Mais moi, je ne suis pas sûr qu'on ait tiré tous les enseignements de ce drame. D'abord, ça a été un homme, il faut s'en souvenir, ça a été un homme qui a été laissé à découvert, Samuel Paty.
Lâché, abandonné.
Il a été quand même, d'une certaine manière, pas tout à fait totalement protégé par son administration, en l'occurrence, qui lui a demandé des comptes après ce cours. Donc, est-ce qu'on a tiré toutes les conclusions, finalement, d'un certain nombre de dysfonctionnements qui sont intolérables et qui devraient protéger les enseignants, qui font tout simplement leur boulot, en l'occurrence, leur job.
Et qui parlent justement de cet isolement dont ils sont victimes, les enseignants, notamment quand il s'agit d'évoquer...
Évidemment, le deuxième sujet, c'est qu'on voit qu'il y a encore, malgré tout, à bas bruit, des débats. Hein, on entend de ci, de là, parfois des responsables politiques dire « Ah, a-t-il bien fait finalement de procéder de la sorte ?» Donc on voit que d'une certaine façon, la bataille est loin d'être gagnée. Parce que non seulement Samuel Paty a perdu la vie dans des conditions absolument atroces, mais l'acte terroriste a d'une certaine manière instillé le doute dans notre système de conviction et dans notre système de valeurs. Et la peur. Et ça, c'est un vrai sujet, je pense.
Et ce sondage IFOP pour le magazine Marianne qui révèle que pour 22% des jeunes, les 18-30 ans, Samuel Paty a eu tort de montrer les caricatures car cela constituait, selon eux, une provocation inutile.
Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que cette idéologie a percolé, en fait. Elle a percolé. C'est une mauvaise interprétation de la laïcité, ça, c'est certain. mais surtout... Je reviens sur ce que disait très justement Arnaud Benedetti, c'est-à-dire qu'il a été laissé en rase campagne. C'est pire que ça. Vous vous rendez compte, il y a de l'agitpropre mené par des frères musulmans. Il y a un discours de haine extrêmement violent. Il y a une jeune fille qui a été exclue à raison de son comportement, qui a menti. Et que fait la principale ? Que font une partie malheureusement de ses collègues, il faut le dire ? Et ça rompt l'unanimité. Et que fait le référent laïcité ? Ils vont demander à Samuel Paty de calmer le jeu. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc il faut que cette société comprenne que soit elle veut que Jules Ferry devienne compatible avec Mahomet, mais ça ne sera pas possible. D'accord ? Donc soit cette société veut mourir et elle se couche, soit elle se dresse et elle dit « nous, c'est comme ça, c'est pas autrement ».
Arnaud Benedetti de la Revue politique et parlementaire, pour conclure sur ces hommages à Samuel Paty, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, de mieux ?
Je crois qu'il faut être surtout très ferme dans ses convictions, que les administrations ne cèdent pas aux pressions extérieures qui s'exercent sur elles, et ça a été le cas malheureusement dans l'assassinat de Samuel Paty.
C'est toujours le cas.
Et que les politiques aient un discours qui soit un discours de conviction, qui soit un discours de très grande fermeté, et où on ne se mette pas encore une fois à douter. Vous savez, quand vous êtes pris par le doute, c'est que vous avez déjà perdu une partie de la bataille.
Exactement.
C'est encore un week-end très politique de tous bords. Un mot sur la gauche avec l'entrée en campagne pour de bon d'Anne Hidalgo, tout juste investie par le Parti Socialiste, mais pas par les sondages. Bonjour Emma Guessel, il faut dire que les mauvais chiffres d'Anne Hidalgo illustrent plus généralement les mauvais chiffres de la gauche.
Et oui, selon un sondage IFOP fiducial pour le Figaro, dans l'hypothèse où Xavier Bertrand est le candidat de la droite, tous les candidats de gauche réunis n'atteignent pas le score d'Emmanuel Macron au premier tour, puisqu'à eux tous, ils sont à 24% quand Emmanuel Macron atteint à lui seul les 25%. Quant aux trois principales forces à gauche, aucune n'est à plus de 10% dans les sondages. Anne Hidalgo est à 5% d'intention de vote, Yannick Jadot à 7% et Jean-Luc Mélenchon à 8%, bien loin derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Xavier Bertrand ou encore Éric Zemmour.
Merci beaucoup Emma. Alors là, je m'adresse aux politologues et aux rédacteurs en chef de la revue politique et parlementaire. La gauche a-t-elle perdu d'avance? Arnaud Benedetti?
Écoutez, ce qui est tout à fait frappant dans ce sondage, c'est que lorsqu'on fait le total des voix de gauche, il est inférieur et de manière très nette au total, au vu des sondages, que font par exemple Éric Zemmour, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Donc ça veut dire qu'il y a une
bataille. Ils sont même derrière Emmanuel Macron.
Et ils sont même derrière Emmanuel Macron. À mon avis, la gauche, si vous voulez, aujourd'hui se retrouve dans cet état parce qu'elle a oublié deux choses qui faisaient partie de son ADN politique. Elle a oublié la question sociale, c'est-à-dire qu'elle a investi d'autres enjeux, qui sont notamment des enjeux sociétaux, et elle a laissé de côté une partie des classes populaires, une grande partie des classes populaires qui ne se retrouvent plus, qui ne vont plus d'ailleurs voter pour une grande partie d'entre elles. Et elle a oublié aussi la question nationale. Donc c'était les deux sujets qui étaient au cœur du logiciel de gauche, à la fois la nation et le social. Et on voit depuis maintenant une vingtaine d'années une dérive idéologique de la gauche qui a oublié son logiciel et qui se retrouve dans cette situation. Alors en plus, on voit qu'il n'y a aucun leader naturel qui s'impose dans cette compétition.
Le seul qui se distingue un peu, ce serait éventuellement Jean-Luc Mélenchon.
Oui, Jean-Luc Mélenchon, mais enfin vraiment, on est sur l'épaisseur du trait. Vraiment à la marge en l'occurrence. Et on voit qu'en plus, sur ce segment-là, vous avez deux candidatures finalement, celle de M. Jadot et celle de Mme Hidalgo, qui se partagent, j'allais dire, une zone idéologique qui est assez proche et qui est assez commune, ce qui fait que l'un et l'autre se retrouvent avec des scores qui sont finalement assez bas.
Guillaume Bigos, est-ce que c'est perdu d'avance et est-ce qu'il n'est pas nécessaire pour la gauche de se rassembler, si toutefois c'est possible?
Jamais rien n'est perdu d'avance, forcément, et surtout pas en politique. Par contre, là, ça semble quand même assez compliqué. On regardait avec Arnaud Benedetti un peu dans le rétroviseur des élections notamment présidentielles, et on se rend compte qu'il faut remonter jusqu'à 1969, où effectivement Gaston Defferre faisait 4% et le candidat communiste de l'époque faisait un peu plus de 20%.
Il faisait 20% quand même.
Voilà, donc ça remonte à très 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 loin. Donc aujourd'hui, Marine Le Pen a pris la place du Parti communiste, on peut dire. On peut dire que M. Macron, parce que M. Macron, il n'est pas que du centre, en fait. Il y a une partie de centre-droit et une partie de centre-gauche qui l'agrège. Donc une partie des technos euro-libéraux sont avec lui. Et c'est un peu le courant rocardien, si vous voulez, sont avec lui. Donc cette gauche, elle est effectivement éclatée façon puzzle. Le problème, pour répondre vraiment à votre question, faire l'unité aujourd'hui, ce serait faire l'unité sur du wokisme, faire l'unité sur de l'écologie, faire de l'unité sur ce qui ressemble quand même assez à une machine à perdre, parce que pour la raison qu'a indiqué précédemment
Arnaud Benedetti, la gauche a délaissé ses combats.
Comme elle s'est trahie elle-même, comme finalement les revendications écolo, c'est pas qu'elles sont absurdes, c'est que ce sont des revendications de gens qui vivent très bien, qui veulent améliorer leur cadre de vie. Ils veulent végétaliser les centres-villes, ils veulent du bio, c'est super et tout le monde a envie de ça, mais malheureusement beaucoup de gens en France ne arrivent pas à joindre les deux bouts, donc ils n'en sont pas là du tout. Et ça, c'est sur tous les thèmes. Par exemple, l'assimilation, c'était une exigence de gauche. Aujourd'hui, elle est portée que par Éric Zemmour. Enfin, c'est complètement fou, si vous voulez.
Merci beaucoup à tous les deux pour ce débat, Guillaume Bigot, politologue, et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Dans un instant, face à la hausse spectaculaire du prix de l'essence, Michel Chevalet nous parlera des mérites de l'éthanol, le seul carburant à ne pas dépasser 1 euro.
Isabelle Moreau, Europe 1, CNews, la matinale week-end.
7h25, merci d'être au rendez-vous de la matinale week-end avec Michel Chevalet. Bonjour Michel.
Bonjour.
Vous arrivez au bon moment. C'est vrai, le prix de l'essence flambe, c'est l'angoisse pour beaucoup de Français quand ils viennent à la pompe. Mais il y a des solutions, vous nous dites, pour alléger la facture, le gaz, le GPL et le bioéthanol. Comment ça marche?
Alors, on va faire une petite précision tout d'abord. Moi, je dirais que la première des choses, c'est de lever le pied. Et vous économiserez bien facilement 1 à 2 litres au 100. Et non pas démarrer au feu rouge, vous savez, c'est la française, ça. Et puis après freiner 500 mètres plus loin.
C'est un peu les latins.
C'est latin, voilà, malheureusement. Et puis, la deuxième chose, c'est de prendre des carburants les moins taxés possibles. Parce que le problème, ce sont les taxes. Et il y en a deux, c'est le GPL, le gaz. Et là, on est très en retard en France par rapport à, par exemple, l'Italie, la Hollande. Et puis le deuxième, bah, qui est ce qu'on appelle le bioéthanol. Le E85 qui est à 70 centimes le litre, vous voyez l'économie, contre, ben là c'est la moitié du diesel.
Voilà. À la station, on ne peut pas se tromper, hein, c'est la pompe bleue.
Voilà, et c'est nouveau, et commence à apparaître, hein, vous le voyez, là, il y a la pompe bleue. Bleue, pourquoi ? Ben parce que c'est les biocarburants, c'est à la mode, et surtout, c'est marqué E85. Vous ne pouvez pas vous tromper, pourquoi E85 ? E comme éthanol, c'est-à-dire l'alcool, et 85, c'est la proportion d'alcool dans l'essence. Il y a toujours de l'essence, 15%, mais surtout, il y a beaucoup d'alcool. Alors ça, ce n'est pas nouveau. En 73, pour faire des économies d'énergie, premier choc pétrolier, on a mis, allez, 5% d'alcool. Bon, personne n'y voyait rien, ça a donné, il s'appelle le E5. Et puis comme ça marchait bien, ben, on s'est dit, ben, tiens, on va mettre 10%. C'est le E10 à la pompe, maintenant. Et puis, là, ce coup-ci, maintenant, on en met 85%. C'est donc le E85. Alors, voilà.
On peut faire le plein sans problème avec ?
Alors là, oui. Oui, oui et non.
Oui, mais non.
Il faut être prudent. Alors, non seulement, si vous avez une voiture très récente, avec des moteurs modernes, et surtout qui sont prévus contre la corrosion, parce que l'alcool aime l'eau, attention au problème de corrosion, eh bien, vous pouvez rajouter quelques dizaines de litres quand vous faites le plein. Hein, sur une voiture normale, vous mettez du E10 et puis quelques dizaines de litres. Mais c'est tout. Et si votre voiture démarre mal quand il fait froid, renoncez. Et alors ?
Donc, vous le déconseillez ?
Non. Il y a deux cas. Là, vous pouvez y aller. Il y a deux cas. Le premier cas, ben, c'est maintenant des moteurs spécifiques. Et notamment, c'est Ford, les Full Flex. Et là, les Français sont en retard. Et là, vous pouvez y aller. Les calculateurs d'injection, parce que c'est sur eux que ça joue, sont parfaitement adaptés. Et puis le deuxième cas, on en parle de plus en plus, ce sont des boîtiers électroniques qui vont régler le temps d'injection et de façon à adapter le moteur. Donc ça marche, seulement ces boîtiers coûtent avec la pose de 700 à 1300 euros. Moi, je trouve que ce n'est pas donné. Ça marche très bien. Et je dirais, pour faire vraiment des économies, c'est-à-dire l'amortissement, bah, il faut être un bon rouleur, c'est-à-dire bien 20 000 km par an.
Oui,
mais
quand même.
Prudence, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je vous dis tout de suite, demandez à ce que l'on vous pose un décanteur d'eau. Parce que comme l'alcool aime l'eau, vous risquez des problèmes avec de corrosion. Et puis, n'oubliez pas, l'alcool, c'est un carburant un peu plus sec que l'essence. Et donc, il faut de temps en temps refaire le plein avec de l'essence normale pour les problèmes de lubrification des injecteurs et de la pompe d'injection. Voilà, ça, c'est truc. Mais je dirais, oui, allez-y, profitez-en, sauf une réserve. Parfois, il est difficile de trouver ce carburant. Il n'y a pas assez de pompes équipées. Et puis deux, il n'y en a pas sur les autoroutes. Et ce n'est pas normal. Vous savez pourquoi il n'y en a pas sur les autoroutes ?
Mais vous allez nous le dire, Michel Chevalier.
Bah parce que ça ne rapporte pas assez, ma chère. C'est un problème, tout un problème.
Parce que ça ne coûte pas assez cher.
C'est un problème d'argent. Mais je crois que le mouvement, enfin, est lancé.
Merci beaucoup, Michel Chevalier, pour vos explications limpides de bon matin et trouver quelques...
De bon matin.
De bon matin. Et de trouver la manière de faire quelques économies, alors qu'on en reparlera évidemment dans nos prochaines éditions. Mais le prix de l'essence flambe et ce n'est vraisemblablement pas terminé. Merci, Michel.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
7h30, le rappel des principes au titre de l'actualité avec vous, Elisa Lukavski. On parle de politique et Marine Le Pen qui change de ton avec Éric Zemmour.
La candidate du Rassemblement national, deuxième derrière Emmanuel Macron, dans les intentions de vote selon un sondage IFOP fiducial d'hier, elle tend la main à celui qui n'est toujours pas officiellement candidat. Éric Zemmour entend, mais il se méfie, on les écoute.
Je tends la main à tout le monde parce que je viens dire attention au-delà des ambitions des uns et des autres, des aventures personnelles que veulent tenter certains. Nous avons un pays, c'est le nôtre. On le voit se dégrader de jour en jour. Donc il faut que l'ensemble de ceux qui croient en la France se rassemblent et se rassemblent derrière la candidature qui est la mieux placée. Je crois que cette candidature, c'est la mienne.
Il faudrait être sourd pour ne pas le voir et l'entendre. Donc oui, je sais, maintenant, elle m'aime. Quand on dit qu'on m'aime, je ne vais pas être mécontent. Ça change, même si, vous savez, j'ai été journaliste politique longtemps et j'ai toujours entendu Chirac dire « quand je veux tuer, j'embrasse ».
Et pendant ce temps, Emmanuel Macron multiplie les déplacements en ce moment. Il est à Marseille.
Déplacement express. Il est arrivé hier soir, il repart ce matin. Le président de la République est venu faire le point sur l'avancement des différents chantiers de son plan de redynamisation de la ville annoncé début septembre. Les explications sur place de notre envoyé spécial, Samy Sfaxi, accompagné de Laure Parra.
Il l'avait annoncé lors de son déplacement le 2 septembre dernier, revenir dans la cité phocéenne pour faire un point d'étape sur le projet Marseille en grand. C'est tout l'objet de ce déplacement ici à la préfecture des Bouches-du-Rhône. L'objectif, c'est de fluidifier les discussions entre les différentes forces politiques du territoire, la région, la métropole et la ville qui peinent à trouver des terrains d'entente sur le renouveau de la deuxième ville de France. Le président de la République est venu délivrer un message. Mettez-vous d'accord pour avancer si vous voulez le soutenir. Soutien plein et entier de la nation. Un chiffre est particulièrement attendu par les élus de la ville, c'est celui de la participation financière de l'État, notamment autour de la rénovation des écoles. L'Élysée nous explique que ce chiffre est encore en cours de consolidation.
Et Emmanuel Macron attendu ce matin, on en parlera tout à l'heure avec notre invité, au Congrès national des pompiers qui se tient donc à Marseille.
Oui, et au cœur des demandes, la valorisation des sapeurs-pompiers volontaires qui représentent 80% des effectifs, mais aussi plus de protection et des garanties en termes de sécurité, avec également un durcissement des sanctions à l'encontre des agresseurs. En 10 ans, les sapeurs-pompiers ont enregistré un triplement des agressions en intervention. À l'étranger, l'assassinat du député britannique mortellement poignardé serait un acte terroriste, selon la police. David Ames, député conservateur de 69 ans, a succombé à ses blessures vendredi après avoir été poignardé à plusieurs reprises pendant une permanence parlementaire. Un homme de 25 ans a immédiatement été arrêté.
Retour en France avec l'audition de Cédric Jubilard qui clame toujours son innocence.
Il continue de nier toute responsabilité, soupçonné du meurtre de sa femme, Delphine. Cédric Jubilard a de nouveau clamé son innocence hier face aux deux juges d'instruction qui l'ont interrogé du côté de Toulouse. Depuis le début de l'affaire, il dément toute implication dans la disparition de sa femme et mère de leurs deux enfants. Son avocat, Maître Martin, regrette que le fond du dossier ne soit abordé que lors du prochain interrogatoire qui aura lieu le 3 décembre.
La défense également ne peut que s'indigner ou être surprise à tout le moins qu'il faille attendre encore plusieurs semaines avant que Cédric Jubilard soit entendu sur finalement ce qu'on lui reproche. 4 mois d'attente pour apprendre encore aujourd'hui que ce sera dans plusieurs semaines que Cédric Jubilard pourra s'expliquer sur les faits. Cet homme clame son innocence, clame son désespoir. La détention devient absolument insupportable.
Une manifestation contre la violence est organisée cet après-midi à Ivry-sur-Seine.
Un rassemblement à l'appel de la municipalité suite à l'agression de deux adjoints au maire. C'était le week-end dernier, à la sortie d'un match de handball. Les deux élus avaient été pris à partie par une dizaine d'individus cagoulés. L'un d'eux avait même reçu des coups de couteau. Le rassemblement aura lieu à 17h30 devant l'hôtel de ville d'Ivry-sur-Seine. En présence du maire, Philippe Bouissou, qui s'est exprimé avant ce rendez-vous.
La très grande majorité des habitants et des jeunes de cette ville veulent vivre dans la tranquillité et la sécurité. Et que cette petite minorité qui s'est rendue coupable d'actes de violence absolument intolérables ne réussiront pas à troubler la sérénité citoyenne et solidaire de la ville d'Ivry. Ces jeunes-là, les quelques-uns très marginaux qui ont commis cet acte, jouent vraiment contre leur camp.
Dans l'actualité également, la colère d'excellents étudiants en médecine recalés pour l'entrée en deuxième année après des oraux très controversés.
Ils sont une quarantaine à estimer avoir fait les frais d'un mode de calcul établi par l'Université de Paris. Certains ont perdu jusqu'à 400 places dans le classement. Les explications de Clémence Barbier et de Francesco Carvelli.
Leur rêve s'est transformé en cauchemar. En juillet dernier, ces étudiants en première année de médecine découvrent leurs résultats d'examen. Célia réussit ses écrits. Elle est placée à la 277e place sur plus de 1700 élèves. Mais les oraux, sur des questions d'actualité, ne se passent pas comme prévu.
J'ai eu une question sur la robotique et j'ai des amis qui ont eu des questions sur le racisme, par exemple. Mais je ne vois pas comment on pouvait évaluer mon empathie sur « qu'est-ce que vous pensez de la robotique ?».
Or, ces oraux comptent pour 70% de la note finale. Des résultats qui chamboulent aussi le classement et l'avenir de Juliette.
J'ai toujours voulu faire de la neurochirurgie en spécialité, en médecine. Mais à cause de ce qui s'est passé, ce qui m'attend, c'est, des métiers en laboratoire ou dans la biologie, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse.
Ces étudiants ont donc saisi la justice. Leur avocat, maître Marc Bélanger, dénonce une impréparation des épreuves par l'Université de Paris.
Les sujets des oraux n'avaient aucun rapport pour démontrer une quelconque compétence dans les métiers de la santé, qu'il n'y a pas eu de préparation. Ce sont des moyens d'illégalité qui peuvent être retenus par un juge.
Le Conseil d'État, saisi, rendra son arrêt dans les prochaines semaines.
Du foot avec le Paris Saint-Germain qui s'est imposé, mais de justesse, face à Angers hier soir, 2-1.
Ils ont inversé la tendance, hein, les Parisiens, lors de ce match d'ouverture de la 10e journée de Ligue 1, car ce sont les Angevins qui ont ouvert le score avant la pause. L'égalisation parisienne, elle est tardive. Elle est signée Danilo Pereira à la 69e minute. Sans leurs internationaux sud-américains, le PSG s'en est remis à ses cadres, dont Kylian Mbappé qui offre la victoire sur pénalty. Le PSG reste leader et signe un succès important pour la confiance à 4 jours de la réception de Leipzig en Ligue des Champions.
Merci beaucoup Elisa, à tout à l'heure pour un prochain journal à 8h. On a évoqué à l'instant dans le rappel des titres Marseille et ce congrès national des pompiers où Emmanuel Macron va tenir un discours ce matin. Des pompiers qui ont plus que jamais besoin de soutien et de moyens. Nous sommes en duplex depuis Marseille avec Hugues de Rognaucourt, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Bonjour à vous et merci d'être avec nous dans la matinale week-end. Je vous propose d'abord ce reportage pour expliquer précisément la situation des pompiers.
Des soldats du feu, de plus en plus désarmés face aux violences physiques. Les chiffres récents donnés par la Fédération nationale des pompiers sont éloquents. Plus 213% d'augmentation des agressions en 10 ans. Bon nombre de candidats à la présidentielle ont défilé cette semaine au congrès de la profession avec comme mot-clé la sécurité. Exemple avec Xavier Bertrand et Michel Barnier.
On ne peut pas avoir ceux qui nous protègent, qui ne soient pas clairement protégés. Et je veux que l'on comprenne que l'on ne s'en prend pas à ceux qui nous protègent.
Tous ceux qui sont détenteurs d'une autorité publique et qui exercent une mission de service public doivent être protégés. Il s'agit des sapeurs-pompiers qui sont en effet trop souvent agressés.
Face à l'urgence, l'exécutif accélère. Une loi est à l'étude pour permettre aux pompiers de porter une caméra mobile, mais pas que, comme l'indique le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
On a fait adopter avec le garde des Sceaux, à la demande du président de la République, la fin des remises de peine contre ceux qui agressent les pompiers. Personne ne peut comprendre qu'on s'attaque à un sapeur-pompier qui vient risquer sa vie pour sauver nos vies.
Crise des vocations, détresse psychologique, ce sont les termes forts d'un autre rapport du Sénat datant de juillet dernier sur la question. D'autres propositions d'Emmanuel Macron sont attendues ce samedi.
Reportage signé Reda Mrabit. Hugues de Rognaucourt, je rappelle que vous êtes vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Je voudrais connaître d'abord votre réaction sur ce chiffre effarant de 213% d'augmentation des violences en 10 ans.
Bah, tout simplement, nous sommes quelque part un des derniers remparts ou le dernier rempart de la République. Les sapeurs-pompiers interviennent plus de 5 millions de fois par an et ce sont les premiers à qui on a à faire face quand on est dans la détresse. Et souvent, ce sont nous qui prenons quelque part et c'est le reflet des maux de la société. On est les premiers à prendre des insultes. Alors, les incivilités, c'est un mot qui est un doux euphémisme, donc des violences, hein, des agressions, des insultes. Et donc c'est pour ça, tout simplement.
Est-ce qu'il y a une crise des vocations?
Alors, on ne peut pas parler de crise de vocation hein, en tant que telle, puisque tous les départements, tous les SDIS multiplient les campagnes de recrutement, les campagnes de sensibilisation. On souhaite d'ailleurs que l'État reprenne à son compte une grande campagne de recrutement, et notamment sur la promotion du volontariat. Par contre, on a un turnover qui est très important. C'est-à-dire que les gens s'engagent chez nous parce qu'ils ont envie encore d'aider leurs prochains. Il y a une véritable, quelque part, envie de s'engager encore hein, en France. Par contre, ils ne restent pas forcément. Et c'est vrai que, à force de communiquer, à force de ne pas réagir par rapport à ces agressions, on a aussi des gens qui peuvent arrêter. Parce que c'est un phénomène qui ne concerne pas que les zones très urbanisées, mais aussi en campagne, tous ceux qui sont victimes de détresse psychologique, qui ont des problèmes sociaux, s'en prennent aussi aux sapeurs-pompiers.
C'est un sujet très politique. On a entendu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, aussi des candidats à la présidentielle. Emmanuel Macron va donc s'exprimer tout à l'heure. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République et des politiques en général ?
Tout simplement, depuis trois jours, nous avons consacré quelque part, débattu sur la loi Matras, hein, puisque c'était une proposition de loi Matras, ça sera une loi Matras. Donc déjà qui pose un cadre sur la gouvernance, sur la coordination des moyens, la maîtrise des moyens des SDIS, notamment par l'explosion du secours à personne. Et enfin, on attend de la part du président de la République, déjà le soutien bien évidemment de ce dernier, la possibilité aussi de soutenir financièrement les départements qui financent les SDIS de France. Et ça a une véritable importance, puisque ce soutien permet l'interopérabilité, permet l'interservice, permettrait de mieux aider les départements en difficulté en termes d'investissement. Et quand on sait qu'aujourd'hui la solidarité nationale doit s'exercer presque tous les jours, puisque on a des aléas climatiques réguliers, on a des inondations, des tempêtes qui s'accentuent, hein, de jour en jour, puisque les phénomènes sont de plus en plus densifiés. Donc ça permettrait aussi de relancer l'investissement de façon à être beaucoup plus efficace quand on va aider le département voisin. Donc c'est un message de reconnaissance, c'est un message aussi, un engagement de l'État vis-à-vis des SDIS, des départements, vis-à-vis des sapeurs-pompiers. Je parlais d'une campagne de communication, mais aussi des soutiens financiers pour faire en sorte que l'entraide interdépartementale soit plus efficace.
Merci beaucoup Hugues de Regnaucourt d'être intervenu dans la matinale week-end. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et que le Congrès national se tient en ce moment à Marseille avec la venue d'Emmanuel Macron ce matin. Merci à Laure Parra pour la réalisation de ce duplex. À suivre dans un instant le cinéma avec Laurie Choleva, du divertissement épique et romanesque. On vous parlera notamment du film Eiffel avec Romain Duris. À tout de suite.
La matinale week-end, CNews Europe 1. Isabelle Moreau.
Le cinéma avec Laurie Choleva. Bonjour Laurie.
Bonjour Isabelle.
On va parler d'une très vieille dame, une dame de fer à l'honneur sur les écrans cette semaine.
Et c'est Eiffel qui est ressuscité grâce à Romain Duris. C'est un film européen. C'est un film qu'on attend depuis longtemps puisqu'il a été beaucoup décalé à cause de la crise sanitaire. Donc réalisé par Martin Bourboulon qui change complètement de registre puisqu'il réalisait Papa ou Maman, cette comédie très drôle. Donc là avec Eiffel, il nous livre un film ambitieux, une véritable reconstitution historique et surtout un biopic original puisqu'il se concentre en fait sur un pan particulier de la vie d'Eiffel, son histoire d'amour avec Adrienne Bourgès, qui l'aurait peut-être amené à construire la tour Eiffel.
Une tour, 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Cette tour, messieurs, c'est Paris. Son rayonnement. Place dans le monde. Pourquoi tu m'as pas tout dit ?
Lui-même. Les images sont absolument dingues, hein. C'est vraiment vertigineux. On pense évidemment à Titanic de James Cameron, au duo Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. C'est vrai qu'il y a un très bon équilibre entre les faits historiques et la romance, entre donc Romain Duris qui interprète Gustave Eiffel et Adrienne Bourgès qui est jouée par cette magnifique actrice qu'on a découverte dans la série Sex Education qui s'appelle Emma Mackey, qui va faire beaucoup parler d'elle. Et puis l'autre réussite, vous l'avez vu dans la bande-annonce, ce sont vraiment les décors sublimes puisqu'on se replonge dans le vieux Paris brumeux. On a l'impression de marcher sur le chantier de la Tour Eiffel. On est ébloui par tout ce qui faisait l'univers de l'époque.
Et puis l'un des films événements du dernier festival de Cannes, c'est à l'honneur aussi cette semaine.
Oui, bien sûr, Julie, en 12 chapitres, le film de Joachim Trier, le parcours d'une jeune femme de 30 ans sur plusieurs années qui va être confrontée à des choix cruciaux de sa vie, les choix professionnels, sentimentaux et personnels qui vont, dans cette décennie, généralement tout déterminer pour le futur.
Alors, toute proportion gardée, il y a quelque chose dans la construction qui fait penser à Bridget Jones, même si, évidemment, ça n'a rien à voir.
Oui, version film indépendant. Ouais. Mais oui, film d'auteur. Non, c'est vrai que c'est un film générationnel, un peu à la Bridget Jones, qui est composé en 12 chapitres. On suit vraiment les 12 chapitres de cette jeune femme, qui est interprétée, il faut le dire, avec brio par Renate, alors j'espère que j'écorche pas trop son nom, mais Reinsve, qui a eu le prix d'interprétation féminine à Cannes. Il faut savoir que c'était l'un des seuls prix qui n'a jamais été contesté. C'est-à-dire que vraiment, elle a fait l'unanimité. Elle nous embarque, on s'attache à ce personnage, à cette femme qui assume ses failles. C'est un film moderne et très agréable à regarder. C'est une vraie pépite.
Eiffel donc et Julie en 12 chapitres.
Merci. Deux excellents films.
Deux excellents films. Merci beaucoup Laurie Choleva, c'était la chronique cinéma dans la matinale week-end.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
Il est temps d'accueillir Céline Géraud, chef du service société d'Europe 1. Merci à vous d'être là, Céline.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
Vous vous êtes intéressée ce matin à un phénomène qui prend de l'ampleur depuis la crise du Covid. C'est notre envie de changer de vie, de changer de ville, la mobilité géographique.
Absolument. Alors l'effet Covid, on peut le dire, a eu des conséquences sur l'envie d'ailleurs des Français. C'est une vraie tendance. Quelques marqueurs forts. Regardez, en 2021, un Français sur quatre déclare vouloir déménager. 68% des cadres sont prêts à changer de poste pour une mobilité géographique. Enfin, 55% des jeunes actifs veulent bouger pour trouver un meilleur équilibre de vie. Dernier indicatif, ce mardi, la mairie de Paris a annoncé que pour cette rentrée scolaire, pas moins de 6 000 petits écoliers avaient quitté la capitale. C'est deux fois plus que les années précédentes. Crise sanitaire, télétravail, une réalité, on quitte vraiment les grandes agglomérations pour se relancer ailleurs.
Alors, ces envies d'ailleurs, elles entraînent le développement de plateformes de services pour les candidats à l'exil.
Absolument, c'est tout un écosystème qui est en train de se mettre en place. Changer de ville, changer de vie, mais pas n'importe comment. Et pour faciliter ces mobilités, il y a des plateformes comme Paris Je Te Quitte ou Clique Ta Ville. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est simple, un peu comme une bibliothèque avec un catalogue de villes. Environ 130 communes de plus de 50 000 habitants sont répertoriées. Et grâce à des milliers de données issues de l'INSEE, notamment, eh bien on peut rechercher sa ville avec des filtres, des préférences. Par exemple, je veux aller dans la nature avec une gare TGV pas trop loin, je clique et voilà, ben je peux tout quitter. Pourquoi ? Pour Annecy, Besançon, Biarritz ou Aix-les-Bains. On peut comparer les villes entre elles, trouver un emploi, un logement, découvrir le témoignage aussi de familles qui ont fait la bascule. Bref, une boîte à outils indispensable pour devenir un parfait néo-rural.
Et alors, quelles sont les villes ou les régions qui attirent plus ?
Alors, sans surprise, c'est une vraie tendance aussi, un vrai désamour pour les grandes métropoles. Paris, en tête de pont, bien sûr, moins 17,6%. Toulouse et son agglomération, moins 16%. Et puis Strasbourg, en 3, moins 8,7%. Alors, on a envie de nature, mais pas trop loin quand même des grandes villes. Le top 3 maintenant des villes qui attirent le plus les professionnels, eh bien, Marseille et son agglomération, plus 8,2% devant Montpellier et Rennes. Elles sont ce qu'on appelle des villes 15 minutes. C'est quoi ? Eh bien, c'est un nouveau concept qui classe les villes où les lieux les plus importants, l'école, le bureau, les espaces verts, sont accessibles en 15 minutes ou moins à pied ou à vélo.
Ouais, on veut tout très vite à proximité. Il y a des départements qui vont encore plus loin pour attirer ces familles.
Et c'est notamment le cas du département de la Haute-Marne. Alors pourquoi je vous parle de ce département ? Parce que ce week-end, figurez-vous, ils ont organisé un week-end d'immersion pour une quinzaine de familles en collaboration avec l'AOU, le spécialiste de la mobilité professionnelle, avec un petit clip à l'appui. Chaumont, Langres, Saint-Dizier, vous connaissez ces villes, Isabelle, bien sûr,
bien
vous y
sûr.
Êtes déjà allée. École, vie locale, espaces verts, sites culturels, on visite tout en famille, on trouve un logement, un emploi. Le déménagement, tout est mis en place pour séduire ces familles. La Haute-Marne espère aussi attirer, grâce à cette opération séduction, des médecins.
C'est le cas de nombreux départements. Ça.
Absolument, il y a des professions qui sont en souffrance. Et la Haute-Marne est véritablement ce qu'on appelle un désert médical, puisqu'on y dénombre actuellement 110 médecins généralistes, soit moins d'un médecin pour 1500 habitants. C'est presque 5 fois moins que la moyenne nationale. Il y a donc un véritable enjeu pour tous ces territoires. En conclusion, on va dire qu'au-delà de la crise sanitaire, on se dirige peut-être, Isabelle, vers un mode de vie plus inclusif, plus vert, plus intelligent.
Et on peut être accompagné par les plateformes dont vous nous avez parlé. Merci beaucoup, Céline Géraud, pour cette chronique chef du service Société Europe 1. Vous restez avec nous, la matinale week-end continue sur CNews et Europe 1. Dans le prochain journal, à 8h, nous reviendrons sur les hommages officiels prévus aujourd'hui à Samuel Paty. Emmanuel Macron recevra ses parents à l'Élysée cet après-midi. À 8h10, dans notre débat avec Guillaume Bigot et Régis Le Sommier, nous évoquerons le duel à distance entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Tous les deux sont en déplacement dans le Sud-Est. La patronne du RN et le pas encore candidat se tiennent dans un mouchoir de poche dans les sondages. De là à parler d'un rapprochement. Écoutez.
Il faut que l'ensemble de ceux qui croient en la France se rassemblent
et se rassemblent derrière la candidature qui est la mieux placée. Je crois que cette candidature, c'est la mienne.
Il faudrait être sourd pour ne pas le voir et l'entendre. Donc oui, je sais, maintenant, elle m'aime. Quand on dit qu'on m'aime, je ne vais pas être mécontent. Ça change, même si, vous savez, j'ai été journaliste politique longtemps et j'ai toujours entendu Chirac dire « quand je veux tuer, j'embrasse ».
Isabelle Moreau, Europe 1, CNews, la matinale week-end.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans la matinale week-end CNews Europe 1. À 8h20, quel psy, pour quel besoin? Ce sera notre rendez-vous santé avec le docteur Brigitte Millot. Mathieu Alterman nous dira, lui, pourquoi la publicité est indissociable de la démocratie. Et puis à 8h40, Jean-Pierre Elkabbach recevra l'historien Benjamin Stora. Voilà pour le menu. Merci d'écouter Europe 1, il est 8h. Et bien sûr, on accueille nos débatteurs du matin. Guillaume Bigot, à nouveau, merci d'être toujours avec nous. Et Régis Le Sommier, bienvenue à tous les deux. D'abord, le journal, toujours en compagnie d'Elisa Lukavski et les titres de cette édition. Nouvelle journée d'hommage à Samuel Paty aujourd'hui. Un an, jour pour jour, après son assassinat, un square à son nom va être inauguré juste en face de la Sorbonne. Emmanuel Macron recevra ses parents à l'Élysée dans la journée. Et nous irons à Éragny, la commune où il résidait, dans le Val-d'Oise. Marine Le Pen est dans le Vaucluse aujourd'hui. Éric Zemmour doit lui rencontrer Robert Ménard à Béziers. Entre la candidate du Rassemblement national et le potentiel candidat, le mano à mano continue dans les sondages. On verra si un rapprochement est en train de s'amorcer. Et puis cette question... Comment réduire la facture de carburant alors que le prix de l'essence s'envole? Plusieurs pistes sont envisagées, comme le chèque essence. Les Hauts-de-France ont adopté, vous le verrez, depuis 5 ans. Nous irons à Lille dans ce journal. C'était donc il y a un an, jour pour jour, l'assassinat de Samuel Paty par un terroriste.
Ce professeur d'histoire-géographie assassiné en rentrant du collège où il enseignait parce qu'il avait montré des caricatures du prophète Mahomet en classe. Parmi les nombreux hommages, une immense fresque a été réalisée tout près de son domicile d'Éragny, où il vivait à Conflans-Sainte-Honorine, où il enseignait. On lui rend hommage pour ne pas oublier et préserver la liberté d'expression. On écoute le maire de la commune du Val-d'Oise, Thibault Humbert.
Cette fresque, elle est faite pour durer, pour justement que le vraiment ce message soit là, pour surtout faire penser qu'on n'oubliera jamais, et que au-delà de cet assassinat, c'est la liberté d'expression, c'est vraiment les valeurs de la République, la laïcité qui ont été attaquées au plus profond de ces valeurs, au plus profond de la chair, voilà.
La politique et Emmanuel Macron multiplient les déplacements cette semaine, Elisa.
Déplacement express à Marseille, il est arrivé hier soir. Il repartira ce samedi. Et Samy Sfaxi, vous êtes notre envoyé spécial du côté de Marseille. Vous avez suivi le président de la République toute la journée hier. Au niveau de son programme aujourd'hui, il doit rencontrer les sapeurs-pompiers qui sont réunis pour leur 127e congrès du côté de Marseille, justement.
Oui, écoutez, Emmanuel Macron qui a terminé très tard son dîner de travail avec les différentes forces politiques du territoire hier soir aux alentours de 1h30 du matin et qui va aujourd'hui en effet clôturer ce congrès national des sapeurs-pompiers, comme le veut la tradition, ce 127e congrès national. L'objectif, eh bien, il est double d'abord d'apporter son soutien, écouter ses pompiers et puis ensuite eh bien, apporter des réponses. Vous le savez, il demande des revalorisations salariales importantes depuis maintenant plusieurs mois et c'est aujourd'hui eh bien, que Emmanuel Macron va tenter de répondre à ces questions. Vous le savez, ils étaient aussi plusieurs milliers à descendre dans la rue hier pour justement eh bien, faire entendre leur voix. Emmanuel Macron qui devrait rester ici un peu plus de 2 heures. Il va ensuite remonter à Paris parce que vous l'avez dit, eh bien, il doit recevoir la famille de Samuel Paty. Ce sera en fin d'après-midi aux alentours de 17h à l'Élysée.
Merci Samy Sfaxi en direct de Marseille en compagnie de Laure Parra. Ne manquez pas à 8h40 Jean-Pierre Elkabbach, son invité ce matin, Benjamin Stora. L'historien a remis en janvier dernier un rapport à Emmanuel Macron sur la guerre d'Algérie. Le président commémorera cet après-midi le massacre de manifestants algériens par des policiers français. C'était le 17 octobre 1961. On connaît le profil du suspect placé en garde à vue après la découverte d'une femme décapitée dans l'Hérault.
Il s'agirait d'un homme de 51 ans, un ancien boxeur et candidat Front National aux élections municipales dans le Nord, selon le parquet de Béziers. Il a été placé en garde à vue jeudi soir. Aux enquêteurs de la police judiciaire, le suspect a déclaré n'avoir aucun souvenir du crime qui lui est reproché. Il a invoqué des troubles de mémoire dus à un traumatisme crânien et a affirmé être sous traitement médicamenteux.
Le Covid est pour l'instant, pour ceux qui ont été vaccinés par Moderna, pas de troisième dose en perspective.
La Haute Autorité de Santé le déconseille en tout cas. Dans un communiqué publié hier, l'instance recommande d'utiliser exclusivement le vaccin Pfizer-BioNTech pour l'administration d'une troisième dose et d'attendre un avis de l'Agence européenne du médicament pour une injection de rappel avec Moderna. C'est une position de prudence. La campagne de rappel concerne les plus de 65 ans, les immunodéprimés et les personnes à risque.
Sujet très présent pour nombre d'entre vous, le prix du carburant qui n'a jamais été aussi haut. Pour contenir cette flambée, l'État songe à quelques pistes.
Et pourquoi pas un chèque carburant à destination des foyers aux revenus les plus modestes. Un dispositif similaire est déjà en place depuis 2016 dans les Hauts-de-France. Explication avec ce reportage tourné à Lille par Damien Deparnay et Pierre Humez.
Xavier parcourt chaque jour 30 km pour aller au travail. Ses conditions de revenus lui permettent de bénéficier du chèque carburant de la région Hauts-de-France. Il touche donc une aide de 20 euros par mois.
Moi, je consomme une centaine d'euros par mois au niveau du carburant sur deux véhicules. C'est une aide qui est non négligeable. Alors bien sûr, on pourrait toujours demander plus, mais c'est sûr que c'est une aide intéressante. Ouais.
Pour bénéficier de ce chèque carburant créé par la région en 2016, il faut remplir certaines conditions, comme l'explique Antoine Silani, conseiller régional en charge de la jeunesse.
Il ne faut pas gagner plus de 2 SMIC par mois pour pouvoir bénéficier de cette aide. Il faut habiter en zone rurale. Il y a eu plus de 80 000 personnes qui ont bénéficié du dispositif durant l'ancien mandat, et ne serait-ce que nous sommes déjà à 48 000 demandes.
Un dispositif dont pourrait s'inspirer le gouvernement au niveau national pour faire face à la flambée des prix des carburants. Une bonne idée pour ces automobilistes lillois.
L'idéal, c'est que ce soit pour les personnes qui en ont le plus besoin. Donc peut-être celles qui utilisent le plus la voiture et qui ont le plus de difficultés financières.
Les gens qui vont avoir du mal, disons, à leur fin de mois, etc. Je crois que ça peut être que utile pour eux, quoi.
L'année dernière, le chèque carburant a représenté un budget de 9,2 millions d'euros pour la région Hauts-de-France.
En voilà un qui n'a plus de problème de finances. La plus grosse cagnotte jamais enregistrée en Europe a été validée en France. Le ticket, en tout cas, 220 millions d'euros. Mais on se demande, Elisa, qui est l'heureux élu?
On se le demande. Guillaume Bigot nous a dit que ce n'était pas lui. Alors peut-être notre invité, je ne sais pas.
Non plus, apparemment.
Bon, non. On ne sait pas encore. Une chose est sûre, avec ces 220 millions d'euros, eh bien, l'heureux élu peut faire pas mal de projets. Il peut aussi choisir d'aller dîner tous les soirs, pourquoi pas, pendant plus de 1000 ans, dans le restaurant triplement étoilé de Guy Savoie. Voilà. S'il avait plusieurs vies, ou en tout cas, s'il veut faire un cadeau à sa descendance.
Il va réduire son espérance de vie, en tout cas, s'il vient tous les
soirs. Oui, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais il peut aussi décider de placer son argent à la banque et d'attendre que les intérêts tombent. Il fait fructifier son argent. S'il le place, il touche quand même 550 000 euros par mois.
Rien qu'avec les intérêts.
Exactement.
Et bien voilà,
ça vaut le coup. Ça, c'est un bon conseil, je pense.
Merci beaucoup. Elisa, Lucas, voilà. Qui voit, c'est mieux que d'acheter 700 000 trottinettes électriques aussi. J'ai vu,
oui, il y avait ça
le
aussi.
Chiffre correspondant à 220 millions d'euros. Merci beaucoup, Elisa. À tout à l'heure, à 8h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Notre face-à-face. Avec nous ce matin, Guillaume Bigot, politologue, et Régis Le Sommier, grand reporter. Merci à tous les deux d'être avec nous dans la matinale week-end. On commence par ce mano à mano entre Éric Zemmour donc, et Marine Le Pen. Ils sont tout proches dans les sondages, tout proches physiquement aussi parce qu'ils sont dans le Sud-Est en ce moment. Mais sont-ils proches au point de se rapprocher pour de bon? Je vous pose la question juste après les précisions de Sophia Dolé.
En perte de vitesse dans les sondages, Marine Le Pen serait-elle en train de changer de stratégie face à Éric Zemmour? En marge d'un déplacement dans le Vaucluse hier, la candidate Rassemblement national à la présidentielle appelle à l'union derrière sa candidature.
Moi, j'ai des divergences avec Éric Zemmour. Donc oui, nous avons des divergences. Oui, sur un certain nombre de sujets, nous faisons le même constat. Il faut que l'ensemble de ceux qui croient en la France se rassemblent. Et se rassemble derrière la candidature qui est la mieux placée. Je crois que cette candidature, c'est la mienne.
Un appel entendu par le principal intéressé, mais avec une certaine ironie.
Quand on dit qu'on m'aime, je ne vais pas être mécontent. Ça change, même si, vous savez, J'ai été journaliste politique longtemps et j'ai toujours entendu Chirac dire « quand je veux tuer, j'embrasse ».
Éric Zemmour compte bien poursuivre son chemin en solitaire pour le moment et réfléchit à la création d'un parti. Mais quand on lui demande quel serait son vote en 2022...
Je propose à la salle de répondre à ma place.
Alors, Régis Le Sommier, c'est par vous qu'on va commencer. Rapprochement ou pas possible entre Éric Zemmour et Marine Le Pen? On a vu que la candidate du Rassemblement national tendait en quelque sorte la main.
Ce qu'on constate, c'est que le discours a changé en une semaine. Clairement, Marine Le Pen s'est rendu compte qu'il y avait quand même une dynamique autour d'Éric Zemmour, hein, même si le dernier sondage la redonne devant lui.
Ça se joue vraiment à 1%.
Mais en réalité, quand même, il y a un constat qui est fait par les deux candidats qui est intéressant. C'est le fait que si Éric Zemmour est crédité de 16, et si Marine Le Pen, je crois que c'est Odoxa hier, est crédité de 18, si on fait le bloc, on met les deux ensemble, ça fait 34. Et donc, ça change quand même beaucoup de choses par rapport à Emmanuel Macron, qui, lui, est à 25. Là, il y a quand même quelque chose. Il y a évidemment une intelligence de la part des deux, des thèmes qui sont suffisamment communs pour pouvoir éventuellement envisager une alliance. Après, il y a la question des égos, il y a la question des personnalités. Et puis, moi, je crois aussi une chose, c'est que Marine Le Pen, ça fait quand même des années qu'elle implante et qu'elle travaille le terrain avec donc le FN d'abord, puis le RN ensuite, que le Front National s'est quand même implanté, même si il est peu représenté au niveau national, il est représenté au niveau municipal. Et il y a une grosse différence, et ça, c'est un des points sur lesquels Éric Zemmour doit évidemment réfléchir, c'est que le Front National du Nord et le Front National du Sud, Rassemblement National, n'est pas du tout le même. Quand on pense le Rassemblement National dans le Nord, c'est le Rassemblement National de gauche, implanté à Hénin-Beaumont, patrie de Jean Jaurès, implanté dans des terres qui étaient autrefois des terres socialistes ou communistes, et le Sud, c'est plutôt la droite, et le Sud validait jusqu'à présent une stratégie qui était celle de Marion Maréchal, qui était le rapprochement avec la droite qu'incarne Robert Ménard, qu'a réussi Louis Alliot aussi à Perpignan, en s'alliant avec des personnalités de droite, et que Éric Zemmour aujourd'hui est en train d'essayer de mettre en place aussi. Donc là, il y a une grosse différence. Je dirais que Marine Le Pen a quand même beaucoup de soutien encore dans la France profonde. Éric Zemmour, c'est un électorat différent. Donc les deux électorats ne sont pas forcément similaires. Mais évidemment, il y a une intelligence des deux. Et je pense que les discussions vont aller bon train. Et
Guillaume Bigot, elles ont vraisemblablement commencé, les discussions. Il y a une rencontre avec Gilbert Collard, une rencontre avec Robert Ménard aujourd'hui. Une alliance est inévitable ?
Tout le monde discute avec tout le monde en politique, même si ça avait été nié. Jean-Marie Le Pen avait discuté avec Jacques Chirac, etc. Enfin, c'est pas ça le sujet. Je pense que le sujet, c'est plutôt, on comprend parfaitement aujourd'hui, parce que la question de l'opportunité et du calendrier est fondamentale en politique, on comprend bien pourquoi aujourd'hui, alors que les courbes se croisent et celle de Mme Le Pen descend et celle de M. Zemmour monte, pourquoi elle a intérêt à lui ouvrir les bras. Alors effectivement, certains avaient ironisé, en disant aujourd'hui, après l'avoir considéré comme quelqu'un d'un peu extrémiste, elle l'appelle par son petit nom, et puis demain, c'est embrassons-nous Folleville. Et Éric Zemmour a raison de rappeler qu'embrasser en politique, c'est souvent le baiser de la mort. Donc on comprend bien pourquoi elle fait ça. Elle fait ça pour capter une partie de son aura, pour capter une partie de sa dynamique et éviter qu'il monte trop.
Mais est-ce qu'il n'y a pas intérêt à un rapprochement entre les deux?
Alors, on y vient du côté, et Régis Sommier a totalement raison, non pas Éric. C'est Éric Zemmour et Régis Le Sommier. Il a parfaitement raison en ce sens que, évidemment, les deux ensemble, c'est la garantie d'aller au second tour. Ça, tout le monde est d'accord. En revanche, quelle est la logique d'Éric Zemmour pour l'instant? Bien sûr, pas se rapprocher de Marine Le Pen, que le fruit tombe tout seul d'une certaine façon. Et qu'en effet, si elle se retire un moment parce qu'elle devient trop faible, alors les voix vont se déplacer naturellement. Premier point. Deuxième point, je vous rappelle qu'Éric Zemmour, il a ce que j'appellerais la stratégie de l'aimant. C'est-à-dire qu'en fait, il est à équidistance entre le Rassemblement National et LR, en tout cas position RPR, c'est-à-dire une partie de LR et une partie du RN égale le RPR. Et c'est cette position d'aimant à équidistance entre les deux qui lui permet de capter et de l'un et de l'autre. Pour être aimable, il doit rester un aimant, donc il doit rester à équidistance. S'il se rapproche trop de l'un ou trop de l'autre, cette stratégie, elle tombe. Or, il a intérêt, bien sûr, à ce que le RN n'aille pas et que Marine Le Pen ne soit pas candidate, mais il faut que le fruit tombe tout seul.
Il faut que le fruit tombe tout seul.
Oui,
de son point de vue. Hein, de son point de vue.
Je dirais que d'autant que sur la partie LR et sur ses rapports avec le LR, on voit qu'on est toujours dans une gabegie de ce côté-là, avec toujours une incapacité à se choisir un candidat.
Ce ne sera pas avant le 4 décembre.
Voilà, donc ça va être encore très tard, avec des atermoiements, encore une guerre larvée entre trois candidats cette fois-ci. Donc un manque de clarté de ce côté-là. Et puis il y a aussi.
Je ne suis pas d'accord. En fait, là, pardon de vous couper, mais parce qu'en fait, ils ont déjà un candidat, ces gens-là. C'est Emmanuel Macron.
Oui, alors mais une partie.
Et on conclut très vite sur ce thème.
Je
ne
suis pas tout à fait sûr que tous les LR votent Emmanuel Macron ou tous les LR se rangent derrière Emmanuel Macron. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est que cette absence de visibilité entre Michel Barnier, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, qui est dans le parti, pas dans le parti, tout ça, c'est une confusion absolue. Et d'une certaine façon, il ne faut pas oublier non plus la création, et ça, je vais plutôt aller dans votre sens, de son parti par Édouard Philippe, qui vient lui appuyer Emmanuel Macron et qui peut potentiellement capter justement une partie de l'électorat LR, peut-être l'électorat le plus centriste.
Le temps file, pardonnez-moi, je voudrais quand même qu'on parle des pompiers avec leur congrès national. Aujourd'hui, ce chiffre phare, 213% des violences qui ont augmenté en 10 ans seulement. On entend la détresse des pompiers, on voit que les politiques sont à leur chevet. Quelle solution pour les pompiers qui sont régulièrement agressés?
Deux commentaires très brefs. Le premier, c'est que ce sont des gens qui exposent leur vie pour sauver celle des autres. Ils sont déjà au feu. Parfois, vous savez, dans les casernes pompiers, on dit mort au feu. Donc, ils tombent, soit blessés, soit morts, pour nous sauver. Et il faut en plus qu'ils affrontent une violence gratuite. Donc, on voit avec ce phénomène de l'agression, des agressions entre les pompiers, qu'il y a un phénomène parfaitement irrationnel. Parce qu'attaquer des médecins ou attaquer des pompiers, si vous êtes un criminel, vous pouvez effectivement vous en prendre à la police, encore que. Mais là, il y a une irrationalité absolument pure. Moi, je pense que il faut prendre le problème à la racine, c'est-à-dire qu'il faut éteindre les causes de ce qui est une hostilité à la France et à la République. Il y a tous ceux qui portent l'uniforme français.
Régis Le Sommier, grand reporter.
Oui, c'est ça, c'est l'agression de l'uniforme, c'est l'agression de tout ce qui représente la France, que ce soit les ambulanciers, que ce soit... Voilà, donc on est dans une incivilité absolue et de ce point de vue-là, le problème dépasse largement les pompiers. Au départ, effectivement, c'était les policiers, puis ça s'est étendu.
Ce sont eux qui sont en première ligne, sont eux qui arrivent les premiers
sur les situations. Mais c'est peut-être la chose la plus injuste, c'est peut-être c'est des gens qui, comme le disait Guillaume, sont déjà au feu à la base, et en plus il y a encore incendie.
C'est inique,
et ils payent quelque part des politiques qui ont conduit à ça.
Sur les solutions, on attend Emmanuel Macron tout à l'heure au Congrès national des pompiers. Quelle serait l'urgence, la priorité?
Il est élu depuis pratiquement 5 ans, donc je ne sais pas si... Oui. Et puis ce phénomène dure depuis 25 ou 30 ans, donc les solutions, on les attend, oui, en effet, comme vous dites.
Régis Le Sommier?
Oui, c'est le même constat, c'est que Emmanuel Macron, on arrive, on sait qu'il est en campagne, et qu'évidemment, il va dire, il va venir au chevet des pompiers, il va expliquer qu'il va faire un grand plan, parce qu'il n'arrête pas de s'agiter dans tous les sens. En réalité, les pompiers vont demander des choses concrètes, on va voir si une augmentation de salaire,
La présence de caméra également, la fin des remises de peine pour ceux qui agressent les pompiers.
Voilà, mais il n'y a pas de vraiment, il y aura pas, à mon avis, il ne faut pas attendre à des décisions qui vont changer les choses comme ça, spécialement en cette année électorale.
Merci beaucoup Guillaume Bigot, politologue, et Régis Le Sommier, grand reporter, d'être venu débattre dans la matinale week-end. Un coup d'œil sur notre temps de ce samedi, Claire Delorme avec vous, et de bonnes nouvelles encore.
Exactement, du soleil pour toute cet après-midi, mais seulement après la dissipation lente des nuages bas qui vont surtout circuler au nord de la Garonne en direction des plaines du sud-ouest, mais sinon quand même une très belle journée avec tout au plus pour l'après-midi. Quelques petits cumulus de beau temps qui vont essentiellement circuler au nord de la Seine et encore près de la Bretagne. Encore un petit peu d'instabilité en direction de la Corse avec une averse qui pourrait justement poindre le bout de son nez, surtout près des reliefs. Pour les températures dans l'après-midi, attention quand même à l'amplitude thermique, car on aura quand même des gelées en matinée, il faudra se couvrir. Et dans l'après-midi, justement, 15 degrés vers les frontières du nord-est, 22 degrés, encore de la douceur près de la Méditerranée, 18 degrés pour Brest, 21 degrés à Bordeaux, 17 degrés pour la capitale.
Merci beaucoup Claire Delorme, avec toutes ces bonnes nouvelles, vous revenez autant de fois que vous le voulez avec tous. C'est toujours un vrai plaisir. Vous restez avec nous, on va parler des psys, psychiatres, psychologues, c'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais c'est important pour notre santé. C'est avec, évidemment, le docteur Brigitte Millot.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
C'est l'heure de notre chronique santé dans la matinale week-end avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour docteur, bonjour Brigitte.
Bonjour Isabelle.
Alors tout se passe en ce moment beaucoup là, oui, dans notre tête. Qu'est-ce qu'on parle de psychologie? C'est impressionnant. Mais on voudrait d'abord savoir quelles sont les différences entre psychiatre, psychologue, psychanalyste. Ça fait beaucoup de psy tout ça.
Oui, chacun son psy. Oui, alors on va commencer par le plus simple. Oui. Les médecins. Les psychiatres sont médecins. Oui. Donc ils ont fait leurs études de médecine plus un cursus de 4 ans en psychiatrie. Alors, l'avantage, c'est quoi? Ils peuvent poser un diagnostic, ils peuvent vous traiter, ils peuvent prescrire des ordonnances, c'est remboursé, ils peuvent vous faire des arrêts de travail. Enfin, voilà, c'est médecin, psychiatre. Voilà.
Traditionnel, mais dédié à la psychiatrie. Enfin, voilà. Tout problème psy.
Voilà. Et ils peuvent aussi faire de la psychologie, des psychothérapies, de la psychanalyse, s'ils le veulent en plus. Hein.
D'accord. Et c'est surtout pour des dépressions, alors, qu'on va voir les psychiatres.
Oui, Isabelle, vous avez raison. La majeure partie des psychiatres traitent les dépressions, savent les prendre en charge. Mais après, ils peuvent traiter aussi tout un tas d'autres maladies. Hein. La schizophrénie, si vous êtes bipolaire, si vous avez des TOC, si vous avez des troubles alimentaires, l'anorexie. Vous voyez, il y a tout un tas de pathologies. Toutes les pathologies mentales peuvent être traitées par les psychiatres. Il y en a qui sont un peu plus spécialisés que d'autres. Il y a aussi ce qu'on appelle des pédopsychiatres qui... Malheureusement, c'est pas bon signe. Ils sont de plus en plus sollicités, hein, des psychiatres pour enfants.
Pour les enfants, hein. Oui.
Oui. Donc, on le voit, il y a tout un tas de spécialités.
Donc, ça, c'est très cadré. Les psychologues, eux, ont quelle formation?
Alors, les psychologues, c'est bac plus 5. Ils ne sont pas médecins. Ils ont fait des études de psychologie. Et là, c'est un petit peu... Alors, ils ont un diplôme d'État qui est validé. Donc, ils rendent compte... Il y a un code de déontologie. Il y a un registre qui s'appelle le registre ADELI aussi, auquel ils adhèrent. Mais là, c'est très varié. Parce qu'en fait, des psychologues, il y en a un peu pour tout et il y en a un peu partout.
Ils ne peuvent pas faire d'ordonnance.
Alors, ils ne peuvent pas faire d'ordonnance. Ils n'étaient pas remboursés jusqu'à maintenant. A priori, en 2022, ils le seront à certaines conditions. Il faudra que ça passe d'abord par votre médecin traitant qui pourra après vous prescrire des séances qui seront remboursées. Mais là, il y en a, je vous le disais, un petit peu partout et pour tout, parce qu'en fait, il y a des psychologues qui vont travailler en entreprise, il y en a qui vont travailler en milieu scolaire, il y en a qui vont être dans des cellules d'urgence, vous savez, médico-psychologiques. Enfin, il y a tout un tas de psychologues. Il y en a qui vont être spécialisés pour faire des tests, des neuropsychologues. Il y en a qui vont être spécialisés en cancérologie, des oncopsychologues. Donc, c'est un petit peu plus compliqué.
Et les psychanalystes?
Et les psychanalystes, alors là, il n'y a aucune formation obligatoire. En fait, pour être psychanalyste, il faut avoir été soi-même psychanalysé, il faut avoir été formé par une société savante, et puis il faut être surveillé par quelqu'un qui est lui-même psychanalyste. Donc on le voit, c'est un petit peu compliqué. Il faudrait d'ailleurs qu'ils balayent un peu devant leur porte. Alors,
pardonnez-moi, mais j'ai l'image du divan en tête.
Mais oui, mais comme tout le monde. Oui. Et d'ailleurs, même si maintenant, certains font du face-face, en déco, ils ont toujours un divan dans leur cabinet. Alors n'oublions pas que l'histoire du divan, ça vient du papa de la psychanalyse, Sigmund Freud, qui en avait marre d'avoir les gens tout le temps face à face. Et il faut reconnaître que c'est pas mal le divan quand même, parce qu'on est un peu plus dans le lâcher prise. On peut comme ça penser aux rêves, on peut parler tranquillement sans être soumis ni aux jeux de séduction, ni à autre chose.
Ni confronté au regard de l'autre.
Voilà.
Merci beaucoup pour ce point psy qui était important ce matin. Merci docteur Brigitte Millot, c'était notre chronique santé.
Europe 1, CNews, Isabelle Moreau, la matinale week-end.
8h30, merci à vous de nous rejoindre dans la matinale week-end. Les principaux titres de l'actualité avec Elisa Lukavski, c'est à vous Elisa.
C'était il y a pile un an, l'assassinat de Samuel Paty par un terroriste alors que ce professeur d'histoire-géographie rentrait à son domicile. Il a été assassiné parce qu'il avait montré des caricatures du prophète Mahomet en classe. Après les hommages qui ont eu lieu dans les différents établissements scolaires hier, c'est au tour de sa ville d'origine, Erani, de lui rendre hommage. Kinson et Pierre-François Altermat.
Un quartier paisible, marqué à jamais par la décapitation de Samuel Paty, à quelques pas de chez lui, à Erani-sur-Oise. Une feuille collée sur une palissade où est écrit « Je suis prof » lui rend hommage. Mathieu était l'un de ses voisins.
Je repasse plus ici de la même façon, j'y pense tous les jours en fait. Donc en plus je suis enseignant, moi je suis prof des écoles. Certains cours, on fait peut-être un peu plus attention à ce qu'on pourrait dire, on essaye de prendre peut-être plus de pincettes parce qu'effectivement on pourrait être aussi nous ciblés de la même manière que lui.
Christelle cherche toujours l'équilibre. Cette riveraine veut à la fois honorer la mémoire de Samuel Paty et tourner la page.
Moi, en fait, tout de suite après le drame, quand je passais devant, j'avais une grosse boule à la gorge.
Et un an après, quand vous passez devant,
c'est plus pareil. Mais j'y pense encore. Ça m'émue parce qu'il allait en direction de l'école, le tueur.
Pour lui rendre hommage, la mairie a fait appel à un graffeur de la commune pour réaliser une fresque géante et colorée sur la façade de ce gymnase. Des figures symboliques comme Marianne ou Jules Ferry sont dessinées, mais pas celles de Samuel Paty. Un choix du maire d'Éragny, Thibaut Humbert.
L'enfant de Samuel Paty vit dans notre commune et qu'on ne voulait pas qu'il ait le visage de son père qui lui revienne sans arrêt.
Laïcité, tolérance, liberté sont inscrits sur la fresque. Autant de mots qui décrivent les valeurs de Samuel Paty.
Cédric Jubilard se dit toujours innocent, soupçonné du meurtre de sa femme Delphine. Il a de nouveau clamé son innocence hier face aux deux juges d'instruction qui l'ont interrogé à Toulouse depuis le début de l'affaire. Il dément toute implication dans la disparition de sa femme et la mère de ses deux enfants. La grande célébration du cinéma de patrimoine, ça se passe au festival Lumière à Lyon. Et hier, la réalisatrice Jeanne Campion a été récompensée, un prix pour l'ensemble de sa carrière. En 1993, Jane Campion avait remporté la Palme d'Or puis l'Oscar du meilleur scénario pour son film La Leçon de Piano. Et puis un mot de sport pour terminer avec ce match d'ouverture de la 10e journée de Ligue 1 hier entre PSG et Angers. Le PSG qui s'est imposé 2-1, mais ça a été compliqué pour les Parisiens qui ont d'abord été menés par Angers. L'égalisation parisienne, elle est tardive. Elle intervient à la 69e minute avec Danilo Pereira. Sans leurs internationaux sud-américains, les Parisiens s'en sont remis à leur cadre, dont Kylian Mbappé qui permet au PSG de l'emporter 2-1 sur pénalty. Paris qui reste leader et qui signe un succès important à 4 jours de la réception de Leipzig en Ligue des Champions.
Merci Elisa Lukaski pour ce tour complet de l'information. Bonjour Mathieu Alterman. Vous allez nous parler de la pub ce matin. Mathieu, elle agace souvent, il faut le dire, mais vous allez nous expliquer qu'elle est essentielle.
Elle est nécessaire. Vous savez, le magazine Stratégie, le magazine spécialisé de la communication et de la publicité, fête son 50e anniversaire et les principaux acteurs de la publicité française, ils dressent un bilan sur un secteur effectivement trop souvent méprisé. La pub, c'est vrai, elle est souvent partout. Les détracteurs disent on est envahi par la pub, c'est une horreur. Mais c'est avant tout le bon fonctionnement, le signe du bon fonctionnement démocratique au sein d'un pays. Vous savez, il n'y a pas de publicité dans les dictatures. Cette pluralité d'offres, de cibles, doit nous faire comprendre finalement que dans notre société, tout n'est que communication.
Vous comprenez quand même qu'on puisse en avoir marre parfois de cet excès de pub.
Je comprends qu'on puisse en avoir marre. Vous savez, c'est un secteur, pour les chiffres de 2019, qui comptait 33,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait vivre énormément de personnes et effectivement, je comprends qu'on puisse en avoir marre, mais je suis certain que si je vous fais entendre certains sons, vous allez sourire, vous êtes d'accord avec moi. Écoutez ça, par exemple.
S'il n'y a pas de bulle dans Bonga, qu'est-ce qu'il y a?
Oui, ça nous ramène nous en arrière, tout ça.
Mais ça vous plaît, ça nous plaît, vous voyez, vous aimez ça, mais il n'y a pas que... Écoutez, et ceci. On entend un autre, quand même.
C'est parce qu'il y a, je suis à plat plat.
Célèbre eau minérale.
Mais voilà, et en fait, on aime parce que c'est de la pub signée Richard Gottener, Pierre Berville, certes il y a quelques années, mais du temps des trois R chers à Jacques Séguéla. Du rêve, du rire et du risque. Soyons fiers, depuis 50 ans, la France est au sommet de la création publicitaire, loin devant les États-Unis, figurez-vous, et révélateur de talent. Vous avez énormément de réalisateurs de spots qui ont fait des grandes carrières de réalisateurs comme Patrice Lecomte, Étienne Chadiès, Jean-Jacques Hano, Jean-Pierre Jeunet.
Donc on est numéro un dans le secteur de la pub, les Français.
Absolument, et beaucoup plus créatif que les États-Unis, rien à voir.
Alors avec le digital, le métier change quand même.
Oui, le métier change, mais le digital n'a pas détruit les campagnes publicitaires traditionnelles. Il les accompagne. Il a affiner la cible commerciale, c'est plus précis. Vous savez, l'art du film publicitaire très court ne fut pas inventé par YouTube. C'est Thierry Ardisson qui l'a inventé dans les années 80, avec des spots comme « Quand c'est trop pico »,« La paire, il n'y en a pas deux ». Finalement, ça montre que la publicité sait se recycler et les campagnes s'adaptent toujours aux canaux de communication. Le publicitaire digital de demain, qu'est-ce que ça va être, le publicitaire digital de demain? Ce sera celui qui rend public, finalement, qui sera informatif auprès du public et qui accompagnera toujours les grandes comme les petites entreprises. Ça aide aussi les petits.
C'est une mission un peu moins futile que ce qu'on pouvait imaginer.
Ça va être de moins en moins futile. Mais finalement, je vais vous dire, la publicité, c'est le baromètre de notre société. Elle est toujours prudente en temps de crise. Elle est beaucoup plus créative en temps d'embellie économique. Finalement, c'est une madeleine pour tout le monde, comme l'est le cinéma, la musique ou la mode. Finalement, sur 10 spots de pub, s'il y en a un qui est bien, bah, c'est, finalement, on est sauvé. Et en fait, pour conclure, je vais vous dire ce que dit la grande publicitaire très respectée Mercedes Serra, une phrase formidable. Elle dit une société sans publicité est une société dépressive.
Bah dites-moi, à ce tarif-là, on est tous très en forme. Hein,
parce j'ai que... envie de vous dire, on se lève tous pour la pub.
Ah, ça me rappelle un fameux slogan. Merci beaucoup pour ce petit retour en arrière. Et je rappelle qu'on fête les 50 ans de stratégie, hein, ce magazine.
Et les 52 ans de la pub télé.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu Alterman. On vous retrouvera évidemment demain, dans quelques instants, juste après votre météo. Vous retrouvez Jean-Pierre Elkabbach, son invité ce matin, l'historien Benjamin Stora.
La matinale week-end, CNews Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach.
Bonjour à tous. Impossible d'évoquer la guerre d'Algérie, l'histoire de l'Algérie, sans vous. Bienvenue, Benjamin Stora. Et bonjour. Cet après-midi, au nom de la République, Emmanuel Macron va commémorer le drame ou la tragédie du 17 octobre 1961 à Paris. Une date noire à la fois pour les victimes et pour tous les protagonistes. Alors il faut rappeler que ce jour-là, à Paris, la Fédération française du FLN avait donné l'ordre aux Algériens de l'Île-de-France de manifester dans le cœur de Paris. Et l'ambiance était plus qu'électrique, elle était au drame.
La manifestation était pacifique. C'était une manifestation décidée pour protester contre le couvre-feu imposé par Maurice Papon, interdisant aux Algériens de sortir de là où ils habitaient, essentiellement des bidonvilles, parce que dans les années 60, énormément d'Algériens vivaient dans des conditions insalubres, dans des grands bidonvilles.
Ils avaient été appelés pour travailler mais en septembre à Paris.
La plupart étaient des ouvriers, bien entendu.
À Paris, on avait connu une soixantaine d'attentats FLN et la mort de quelques policiers.
Oui, alors l'atmosphère, effectivement, c'est l'atmosphère générale, dans la longue durée, bien sûr, qui était celle d'une guerre. Il y a eu effectivement des 5 policiers qui avaient été tués auparavant. Il y avait eu effectivement des affrontements entre Algériens, donc, qui étaient très importants aussi. Il y avait par conséquent une atmosphère très très dure de violence, de guerre, et puis de contrôle incessant au faciès qui était exercé à l'égard des Algériens. Dans ces grands bidonvilles de Nanterre, Asnières, Gennevilliers, etc. De sorte qu'il y avait une très grande tension qui existait, c'est incontestable, et il y avait naturellement aussi l'ambiance politique générale, la préparation des accords d'Évian. Oui. Car nous sommes seulement à quelques semaines, disons, des accords d'Évian.
Ils vont avoir lieu dans 5 mois après, mais il s'agit donc de faire pression pour ou reprendre ou accélérer la négociation secrète entre Algériens et Français à ce moment-là.
Il y a d'un côté, effectivement, du côté du GPRA, du FLN, la volonté de faire pression, d'exister dans le cadre de ces négociations. Et de l'autre côté, du côté du pouvoir français, la volonté, bien sûr, qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public. Il y a la volonté d'éviter, bien entendu, que... au moment où ces négociations commencent à arriver, eh bien, des troubles graves. Il ne faut pas oublier que le général de Gaulle, quelques jours seulement avant le 17 octobre, a échappé à un attentat à Pont-sur-Seine.
Donc on voit l'atmosphère. Et en même temps, l'ordre est donc donné au préfet de police, Maurice Papon, de maintenir l'ordre et surtout d'éviter que les manifestations arrivent au cœur de la capitale. Mais le FLN, vous dites, avait organisé une manifestation dite pacifique. Mm-hmm. Mais il a intitulé sa manif « La bataille de Paris ».« La bataille ».
Là, c'est le titre, disons, d'un livre qui est paru après.
Oui, de Jean-Luc Hennaudy,
bien entendu.
Fondateur et courageux à l'époque.
C'est en fait une organisation voulue par le FLN pour rendre les Algériens moins invisibles, car ils étaient les grands invisibles de cette situation, dans la mesure où il y avait eu très peu de manifestations, pratiquement pas de manifestations d'Algériens à Paris. Il y en avait une le 9 mars 1956 contre les pouvoirs spéciaux qu'avait voté le gouvernement socialiste de l'époque. Et les Algériens avaient manifesté, avaient été très réprimés.
Mais ils disent bien la bataille de Paris le jour de la manif. Ils l'appellent comme ça.
C'est une bataille politique, bien entendu, pour affirmer la possibilité, disons, pour les Algériens de peser dans les négociations qui s'ouvrent avec le général de Gaulle.
Une seule fois, Maurice Papon s'est expliqué. En 1991, il avait accepté de répondre à mes questions qui étaient alors précises parce que j'avais lu le livre de Jean-Luc Hennaudy. Et voici quelques extraits de la version du préfet de police Maurice Papon. C'est un document et donc il faut l'écouter.
C'est un moment de ce que vous avez vous-même appelé la bataille de Paris, n'est-ce pas ?
J'ai repris la formule du FLN qui...
a appelé les engagements qui ont lieu ce soir-là, la bataille de Paris, avec d'autres épisodes d'ailleurs. Et comme je vous l'indiquerai tout à l'heure, ceci était conforme à la stratégie globale arrêtée par le FLN, et la Fédération de France avait reçu pour cette soirée du 17 octobre des instructions spéciales de Tunis.
Oui, mais la Fédération française, dans tous les documents du FLN, dit qu'elle avait prévu une manifestation pacifique et non violente.
Eh bien, malheureusement, elle n'était pas pacifique et elle a été violente. Je vous le lis, parce que je ne veux pas inventer. Toute abstention à la participation sera considérée comme un manquement au devoir et sera l'objet de très graves sanctions. Il y a des petits points. Ceux qui resteraient dans les chambres seront abattus. Pour moi, ça évoque un souvenir dramatique. Souvenir dramatique parce que je me souviens qu'à deux ou trois reprises, lorsque j'étais dans la salle de commandement de la préfecture de police, je ne cache pas, je confesse avec honnêteté que j'ai été pris par l'angoisse, car nous avons failli être submergés. La stratégie du FLN, c'est une stratégie militaire d'ailleurs, c'était de faire monter les enchères pour qu'à ces négociations qui étaient effectivement annoncées, qu'ils puissent jouer à une carte plus haute.
Donc pour vous, c'était une phase de la guerre?
Ah mais nous étions en guerre.
Vous avez donné carte blanche aux forces de l'ordre?
Non, absolument pas carte blanche. Et la preuve, nous avons mésestimé, dans le fond, et là c'est peut-être ma responsabilité, nous avons mésestimé l'entreprise belliqueuse du FLN dans cette nuit-là.
Ce que l'on raconte, d'après des témoins, qu'il y a eu des violences terribles dans la cour même de la préfecture de police.
Alors,
oui ça, ou non, il y en a eu?
Ça, c'est un chapitre que je connais bien. Il y a eu effectivement des énervements, et Dieu sait si c'était sinon excusable, du moins compréhensible. Et lorsqu'on m'a signalé qu'il y avait des brutalités dans la cour du 19 août, je suis descendu de la salle de commandement moi-même pour remettre de l'ordre, pour rappeler à l'ordre, pour réameuter les cadres, et j'ai même pris des sanctions contre les brutalités.
Donc, Maurice Pavon reconnaît lui-même la colère des policiers, les premières violences et des brutalités.
Oui, il le reconnaît, il l'admet, bien entendu. Il faut signaler quand même, parce qu'il dit que la manifestation côté FLN n'était pas pacifique, il faut savoir que, à ma connaissance, cette nuit-là, il n'y a pas eu de policiers tués. Je veux dire, il n'y en a pas. Par contre, là, tout de suite après, il y a un bilan de 3 morts du côté algérien, puis ensuite, une semaine après, 6 morts et 138 blessés qui sont donnés. Et ajoutons les chiffres officiels, toujours, de cette nuit-là, qui seront revus par la suite, des arrestations, on le sait maintenant, de 14 000 Algériens qui ont été arrêtés. Ce qui signifie, bien entendu, la mise en place d'une logistique considérable pour la manifestation. On ne peut pas arrêter 14 000 personnes en une nuit s'ils ne sont pas organisés, les bus, les transports, les camions,
etc. Et à l'époque, il y a eu des censures, des mensonges sur la vérité historique. On sait maintenant qu'il y a eu même, par noyade, un certain nombre d'Algériens, même 150, 200, d'après ce qu'on dit.
Alors vous savez, il y a un rapport qui a été établi à la demande de Jean-Pierre Chevènement en 1998, fait par le conseiller Mandelkern. Ce rapport, donc, Mandelkern était un ami d'ailleurs de Jean-Pierre Chevènement, qui a établi le fait, formellement, donc, ce rapport est diffusé, officiel par la documentation française, qu'entre le 17 octobre 1961 et le 31 octobre, 88 corps d'Algériens de mort violente ont été déposés à l'Institut médico-légal de Paris. C'est un chiffre officiel dans le rapport
Mandelkern. Qu'on a connu beaucoup plus tard.
Qu'on a connu en 1990.
Mais à l'époque, les syndicats de police, avec la gauche en tête dans les syndicats de police, n'avait pas protesté après les manifs et contre le préfet de police. Ça, il faut le signaler.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, et bien entendu, il y a eu très peu de protestations qui sont venues. Il y a quand même des policiers courageux qui ont refusé quand même ce qui s'était passé cette nuit terrible. Du côté des partis politiques et des syndicats, à ma connaissance, au lendemain, il n'y a que le PSU, je crois, avec Michel Rocard qui ont manifesté, mais pas la gauche. Même si plus tard, Gaston Defferre a déposé une demande de commission parlementaire.
En 1991, devant moi, Maurice Pavon reconnaît aussi les reproches qui lui sont adressés.
On m'a été reproché d'avoir été un peu débordé. Et c'est vrai qu'au Grand Boulevard notamment, partout ailleurs on a eu la maîtrise, j'ai pu être débordé.
Est-ce qu'il est vrai qu'après, le général de Gaulle vous ait fait des remontrances?
Le général de Gaulle m'a dit « Vous avez failli être débordé ». C'est un peu vrai.
Vous avez la conscience tranquille, M. Pavon?
Tout à fait.
L'histoire le dira.
L'histoire le dira, mais je sais que moi, je mourrai la tête droite. convaincu d'avoir fait mon devoir envers ma patrie et envers l'État que j'ai servi toute ma vie.
Ça, c'était la version de Maurice Papon.
Bah, c'est un document quand même très important. C'est un document exceptionnel parce qu'il reconnaît que le général de Gaulle lui a fait des remontrances en lui expliquant qu'ils avaient été débordés. Et lui-même reconnaît qu'il a été débordé, qu'il n'a pas été suffisamment capable de tenir en main sa hiérarchie policière et les policiers tout court. Et là, effectivement, c'est un aveu qui a été fait en 1991, qui est très intéressant et qui prouve aussi, bien entendu, que le général de Gaulle n'a jamais donné de consigne.
Il n'y avait pas d'ordre d'écrit du général de Gaulle ?
Non, pas à ma connaissance. Et vous comprenez, le général de Gaulle n'a jamais eu l'intention, même si, naturellement, il a fait des recommandations de fermeté, de tirer à balles réelles sur des manifestants.
Alors, aujourd'hui, c'est pas possible. Le président de la République a choisi un lieu symbolique pour s'exprimer, le pont de Beuzon. Qu'est-ce qui s'est passé là ?
Le pont de Beuzon, vous savez, c'est très symptomatique de ce qu'était la situation sociale de ces ouvriers algériens, puisqu'en face, il y a les grands bidonvilles, le grand bidonville de Nanterre, tout près de l'université qui sera construite après, d'ailleurs. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de répression, beaucoup d'arrestations. Les Algériens paniqués, d'ailleurs, se sont jetés à l'eau. Certains ne savaient pas nager, ont été noyés. Donc il y a eu, effectivement, sur ce pont, comme sur d'autres ponts,
des répressions. Donc c'est symbolique, les ponts et celui-ci. Le président de la République, on le sait, il veut réconcilier les mémoires sur la guerre d'Algérie. Il fait plusieurs gestes d'apaisement qui sont restés sans réponse, ça il faut le dire. Et il attend de vous, l'auteur du rapport classique de Benjamin Stora, des recommandations. Qu'est-ce que vous lui faites pour aujourd'hui ?
Moi, ce que j'ai préconisé dans ce rapport, d'ailleurs, c'est ce rapport qui contient 22 préconisations. Et par parenthèse, d'ailleurs, on a plus avancé sur le chantier mémoriel en quelques mois qu'en 60 ans. Par parenthèse, parce que je sais que beaucoup pensaient qu'il n'y aurait rien, qu'il ne se passerait rien. Sur aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut que la France reconnaisse cette tragédie comme une tragédie inexcusable, dans le fond, bien entendu, comme une sorte de crime qui a été décidé, bien entendu. Et je crois qu'il faut regarder en face cette réalité.
Qu'est-ce que ça veut dire, un crime ?
Un crime, c'est le fait que vous avez quand même des dizaines et des dizaines d'Algériens qui ont été tués.
Non, mais c'est la responsabilité de l'État ou de l'administration ?
Il y a une responsabilité
des deux.
Il y a une responsabilité de l'État sous l'autorité de Maurice Papon. Car c'est, dans le fond, l'ordre, disons, l'application de l'ordre qui a été mise en œuvre, disons, dans cette nuit tragique, a été sous la conduite du préfet de police de Paris.
Vous dites dans Libération ce matin un crime d'État.
Oui, parce que, encore une fois...
Vous le dites là.
Quand on dit crime d'État, c'est aussi la possibilité qu'on a d'identifier qui a décidé cela. Moi, je crois que la mise en pratique des la recommandation de fermeté, il le dit lui-même dans votre document qui est très important, il le dit lui-même, il n'a pas été en mesure de calmer ses troupes.
Très bien, mais si c'est crime d'État, est-ce qu'il faut juger ?
Il n'y a plus de jugement, je veux dire, de
60 ans après, il n'y a plus de jugement.
Il n'y a plus de jugement parce que la France a voté plusieurs lois d'amnistie.
Et alors, mais pourquoi les Algériens ne font rien ? Ils n'auraient aucune responsabilité ? Et c'est vrai que vous avez dit qu'il y a une sorte de rente mémorielle, parce qu'il n'y a pas de réciprocité de la part des dirigeants algériens, dont la plupart continuent à vivre comme s'ils avaient été les auteurs ou les participants à une révolution, et souvent ils n'y ont pas participé. On peut attendre la réciprocité.
Mais quelle réciprocité ?
Qui ne vient pas.
Par rapport à cet événement
ou alors qu'ils ouvrent les archives, oui. Comme la France le fait, il faudra qu'elle fasse encore des dérogations, mais les archives des Algériens, on ne peut pas les ouvrir. C'est un flic qui est depuis 20 ans le responsable des archives algériennes. Donc, est-ce que vous leur demandez de les ouvrir ?
Ce n'est pas simplement moi qui demande de rouvrir les archives algériennes. Il y a une mobilisation en Algérie des historiens algériens qui ont signé une pétition, une vingtaine d'historiens algériens qui demandent l'ouverture des archives algériennes.
Ouais, il faut dire aussi qu'au passage... Bertrand Delanoë, quand il était maire de Paris, avait scellé une plaque sur le pont Saint-Michel. Les présidents de la République avaient fait quelques pas, mais on a envie de vous dire jusqu'à quand la France va faire son mea culpa ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de masochisme chez les Français ?
Vous savez, la question de la repentance, du mea culpa, enfin, vous savez, c'est tous ces mots qui sont utilisés. Personne ne les demande véritablement. Ce qui existe dans la nouvelle société française portée par la jeunesse notamment, c'est une exigence de vérité.
Donc il n'y a pas d'excuses ? Pas de pardon ou de demande de pardon,
vous savez,
et pas de repentance.
Vous savez, Jacques Chirac a prononcé un discours très célèbre aux Maldives. Il n'y a pas le mot excuse ni le mot repentance, mais tout le monde a retenu le discours. Donc ce n'est pas un seul discours d'excuse ou de repentance qui réglera une blessure mémorielle profonde. C'est un chantier qui s'ouvre. Le président de la République a décidé de mener cette bataille mémorielle de manière méthodique et organisée. Il y a eu, comme vous le savez, Audin, Boumengel, le pardon au Harki.
Et vous attendez que cet après-midi, il le dit sur le pont de Bézan. Une remarque, le chef de la Fédération de France du FLN qui a déclenché cette manifestation du 17 octobre, eh bien, il a choisi de vivre en France. Il vit peut-être à Paris, même s'il est très âgé. Est-ce qu'il est citoyen français aujourd'hui ?
Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Non, ça, j'avoue que c'est une question, je ne sais pas.
Merci. En tout cas, la vérité sur l'histoire de la guerre d'Algérie et les périodes des vraies fraternités, c'est vous. Et vous l'écrivez dans un livre qui a déjà un grand succès et en bande dessinée. Merci d'être venu avec nous. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais voilà pour ce matin. À bientôt.
Merci Jean-Pierre Cabache et merci à vous Benjamin Stora. Excellent samedi à tous. On se retrouve demain, sans faute, en direct dès 7h dans la matinale week-end.
La matinale week-end, CNews Europe 1.